8h23, à Paris, voici la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, la traque.
L'homme suspecté de l'attentat au camion Bélier de Berlin, qui a fait 12 morts et 48 blessés lundi soir, cet homme a donc désormais un nom, Anis Amri, tunisien de 24 ans, et un visage reproduit dans la plupart des journaux ce matin. Toutes les polices d'Europe le recherchent, pointe le Parisien, mais les services antiterroristes allemands le connaissaient déjà. Et une question préoccupante se pose. Comment Anis Amri a-t-il pu passer à travers les mailles du filet alors qu'il avait l'intention de perpétrer un attentat? Le fugitif, considéré comme très dangereux et sans doute armé, était fiché par le centre de lutte antiterroriste comme personne menaçante, c'est-à-dire susceptible de passer à l'acte. Malgré une surveillance téléphonique, la police allemande avait perdu sa trace en décembre dernier. Anis Amri a réussi ainsi à plonger dans la clandestinité. Pourquoi n'a-t-il pas été mieux surveillé? S'interroge encore le Parisien. Pour les syndicats de police, le manque de personnel est un gros handicap pour l'observation de ces personnes fichées qui menacent la sécurité du pays. Et ils sont plusieurs centaines dans ce cas en Allemagne.
Alors comment en est-on arrivé là?
L'Allemagne a-t-elle tardé dans sa prise de conscience de la menace islamiste? S'interroge le Figaro. Dans les années 90, le pays ne s'en préoccupait guère et la cellule de Hambourg où se préparaient les attentats du 11 septembre à New York, cette cellule avait pu agir sans être repérée. Le pays qui n'a pas de passif colonial avec le monde arabe et qui n'a pas participé à la guerre en Irak se croyait étranger et épargné par la guerre de civilisation qui oppose les extrémistes à l'Occident. Qui plus est, poursuit le Figaro, la population turque qui compose l'essentiel de la communauté musulmane ne nourrissait pas de ressentiment à l'égard de la population allemande. Les recrues potentielles pour le djihad en ses rangs étaient peu nombreuses. Enfin, la chancelière Angela Merkel avait adopté des positions ouvertes en déclarant notamment que l'islam faisait partie de l'Allemagne. Mais, conclut le Figaro, l'esprit de tolérance fait sans doute aussi partie des cibles des terroristes.
Comment mieux lutter contre le terrorisme islamiste en Europe? Le débat se poursuit.
Oui, pour West France, l'actualité tragique de Berlin nous rappelle si besoin en était que le djihadisme ignore les frontières. Une carte d'identité biométrique avec un standard unique pour tous les États de la zone Schengen serait, estime le journal, un élément utile sur ce plan comme sur celui plus général de la lutte contre la criminalité. Par ailleurs, la solution pourrait venir d'une véritable politique de défense européenne, estime pour sa part le journal de la Haute-Marne. Mais il ne faut pas rêver, pourtant il n'est pas normal, peste le quotidien champenois, que la France soit pratiquement la seule dans l'Union à combattre le djihadisme en Afrique. Ce faisant, elle assure la sécurité de l'Europe à moindre coût pour ses alliés. Le hic est que l'heure est plutôt au chacun pour soi. Bonne chance au futur chef de l'État.
En tout cas, attention aux amalgames, prévient Libération.
Oui, pas question pour le journal de parler de guerre de religion, formule utilisée notamment par Donald Trump. L'idéologie de l'État islamique est évidemment une dérive pathologique du fondamentalisme musulman. Mais justement, pointe Libération, cette dérive révulse une grande majorité des musulmans à travers le monde. La guerre de l'État islamique, autant que contre les croisés, les chrétiens, les juifs ou les incroyants, est dirigée aussi contre les musulmans qui réprouvent son idéologie. Une grande partie des attentats aveugles qu'ils parrainent ou qu'ils organisent frappent des populations musulmanes. Rejeter la masse de croyants de l'islam du côté de Daesh en parlant d'une guerre de religion, c'est, conclut Libération, faciliter le recrutement des djihadistes et affaiblir d'autant la cause de la démocratie.
C'est dans ce contexte de menaces terroristes que le chef d'état-major des armées françaises, le général De Villiers, a publié hier dans les Échos une tribune remarquée.
Oui, remarquée. Tout d'abord dans la forme, parce qu'il est rare qu'un militaire fût le premier d'entre eux vide son sac en public. Et dans le fond, parce que son message est très clair. Le prix de la paix, dit-il, c'est l'effort de guerre. Reprenant un message qui l'égrène depuis plusieurs mois, le général Pierre De Villiers plaide en effet, relève le Figaro, pour un nouvel effort budgétaire en faveur des armées. Cet effort doit se traduire par une hausse progressive du budget de la défense pour rejoindre la cible des 2% du produit intérieur brut avant la fin du prochain quinquennat, souligne le chef d'état-major des armées. En fait, commente la Voix du Nord, à la différence de François Hollande, le général De Villiers sera encore en fonction après mai 2017. Son message s'adresse donc beaucoup plus au futur président pour que l'objectif d'un budget de la défense égal à 2% du PIB soit atteint avant donc la fin du prochain quinquennat. Même précision du côté de Libération, si Pierre De Villiers, qui n'est pas une grande gueule, sort de sa réserve aujourd'hui, c'est surtout pour mettre en garde François Fillon, le candidat de la droite, dont le programme prévoit une baisse drastique des dépenses publiques et donc forcément des crédits militaires. À quelques mois de l'élection présidentielle, le chef d'état-major des armées cherche clairement à se positionner et à préserver ses moyens. Et il n'a pas tout à fait tort, estime Libération, d'autant que la France et l'Europe tout entière se trouvent confrontées à un ordre mondial en plein chamboulement et à une menace qui mute. L'actualité le montre tous les jours.
Enfin, cet éditorial au vitriol dans La Croix sur la situation en République démocratique du Congo.
S'il est une région du monde où les chefs d'État s'incrustent sans vergogne au pouvoir, c'est bien l'Afrique centrale et La Croix de citer plusieurs pays, le Cameroun, le Gabon et la RDC. Au cœur de cette région, en effet, la République démocratique du Congo ne fait pas exception, hélas, pointe le quotidien catholique. Le mandat du président Joseph Kabila a expiré avant-hier, mardi 20 décembre, mais celui-ci reste en place, 15 ans après avoir succédé à son père assassiné. Secret, calculateur, poursuit La Croix, et figure de proue d'une famille qui ne cesse de s'enrichir. Kabila n'a pas su sortir du sous-développement un pays regorgeant de richesses naturelles et minières, mais dont 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté absolue. Son obstination, conclut La Croix, provoque la colère d'une large partie de la population et plonge le pays dans l'inconnu.